En quoi consiste votre métier ?
Alors en fait, il s'agit de mon ancien métier. J'étais technicien à l'Office national des forêts pendant 42 ans. Et donc j'ai pris ma retraite il y a de ça quelques années. Mais j'ai travaillé donc dans toute la France pendant 42 ans avant de prendre ma retraite à l'Office national des forêts.
En tant qu'adjoint au président de la transition écologique, quelles sont vos missions ?
Donc effectivement, je ne suis plus forestier, mais je suis maire de la commune du Fou et vice-président de la communauté de communes. Et le président de la communauté de communes m'a chargé de mettre en œuvre, de travailler sur le plan climat, air, énergie territorial, le PCAET, dont je crois vous avez entendu parler un peu plus longuement ce matin.
Quelles sont vos actions pour l'avenir en tant que vice-président de la transition écologique ?
Alors pour l'avenir, bien évidemment, c'est déjà tout faire pour réduire en fait les consommations énergétiques. Par l'isolation des bâtiments, par tout un tas de systèmes que vous connaissez certainement les uns les autres. C'est aussi produire au maximum de l'énergie renouvelable. La loi nous impose à une certaine quantité de production d'énergie renouvelable dans les années qui viennent. Donc mon rôle, c'est de mettre en place les groupes de travail et de faire réfléchir ensemble toutes les personnes qui interviennent dans cette économie d'énergie et dans cette production d'énergie renouvelable.
On va maintenant parler de la filière bois énergie en presqu'île de Crozon.
Pourquoi le bois est un objet d'industrie ?
Alors oui, effectivement, c'est un objet d'industrie, c'est une matière première, comme le pétrole, comme le charbon, c'est une matière première et le bois donc sert notamment à faire des meubles par exemple. Donc c'est un noble matériau, parce que c'est un matériau vivant qui intervient dans la construction de tout un tas de choses. Les bateaux, en Bretagne on est bien placé, on construisait des bateaux dans le temps, un peu moins maintenant, des bateaux, des violons, tout un tas d'outils dans lesquels le bois intervient, mais donc aujourd'hui notamment dans le bâtiment.
Pour quel usage utilise-t-on le bois ?
Ah, je l'ai un petit peu évoqué rapidement. Donc, dans tout un tas de domaines, bien évidemment, j'ai noté les instruments de musique, les bateaux, le bâtiment. Mais je suis sûr qu'il y a tout un tas de choses que j'oublie. Mais le papier, le bois est partout autour de nous sans qu'on s'en rende compte aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est tellement vieux dans notre manière de vivre. On a utilisé le bois depuis de tout temps, l'homme a utilisé le bois. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu oublié, mais il est présent partout autour de nous. Regardez bien, vous verrez, partout il est.
Le bois de la filière bois énergie de la presqu'île de Crozon est-il importé ? D'où vient-il ?
Alors l'idée, quand on fait un plan climat et énergie territoriale, justement, c'est de devenir le plus autosuffisant que l'on peut. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher du bois avec des camions ou des trains à 500 km d'ici. Donc l'idée, effectivement, c'est que de consommer en fait du bois qui est produit à l'échelon local, en tout cas à l'échelon le plus local possible. Ici, on s'est fixé à peu près 30 km. Alors, vous savez bien, comme moi, que la presqu'île de Crozon, il n'y a pas beaucoup de forêt. Mais quand on va plus vers les monts d'Arrée, il y a beaucoup plus de bois. Donc on peut imaginer être autosuffisant à terme en matière de bois si on travaille sur un territoire un peu plus grand que la simple presqu'île de Crozon.
Comment choisit-on les arbres à couper ?
Ça, c'est compliqué. Il faudrait à peu près 2 jours pour que je vous explique toutes les... Forestier, ça paraît assez simple comme métier, mais finalement, ça met en œuvre un certain nombre de compétences. Et le choix, justement, des arbres, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'un arbre, parfois, un chêne, il va mettre 150-200 ans avant qu'on ne le coupe. Et donc, il va falloir que les différentes générations de forestiers qui se succèdent, une génération, c'est à peu près 30 ans, un chêne, lui, va vivre pendant 150 ans, il va voir 5 générations de forestiers se passer à ses pieds. Donc, on va le faire en fonction de différents critères. Généralement, en fait, c'est un peu la dure loi de la nature, ce sont les arbres les plus faibles qu'on éliminera. Vous avez un gros chêne et un chêne plus petit à côté qui l'empêche quelque part de pousser, vous allez couper les petits chênes. Mais ça, c'est tous les 10 ans, tous les 12 ans que vous allez passer. Vous voyez, c'est très régulier. Mais c'est un vrai métier que le choix des arbres à abattre. Et c'est sans doute la partie la plus compliquée du métier.
Quelles sont les essences de bois sont utilisées dans la filière du bois énergie ?
Alors, il y a toutes les essences qu'on connaît, les essences classiques, le chêne, le hêtre, le châtaignier, mais aussi donc des essences résineuses, comme l'épicéa, le sapin, le pin. Donc, chaque essence forestière, en fait, a une valorisation possible dans la filière bois, et dans la filière bois énergie notamment.
Le bois est-il une énergie renouvelable ? Est-ce que le bois se fait rare ?
Alors oui, c'est une énergie renouvelable, parce que l'arbre, donc, dans le cadre d'une gestion durable, une gestion durable, ça veut dire qu'on ne va pas tirer plus dans la forêt que la forêt ne produit. La forêt, je vais vous dire, elle produit par exemple 4 ou 5 mètres cubes de bois par an. Ben, si on tire 4 ou 5 mètres cubes ou moins, on est dans une gestion durable parce qu'on ne prend pas tout ce que la forêt a produit. Le jour où on commence à prendre plus que la forêt produit, là on est en surproduction et on n'est plus dans une gestion durable. En Europe, on a la chance, nous sommes des pays quand même relativement riches. On peut se permettre de mener une gestion durable sur nos forêts. Vous avez entendu parler de forêts asiatiques, de forêts africaines ou en Amérique du Sud, où les forêts sont surexploitées parce que, pour tout un tas de raisons, mais pour mettre du soja, par exemple, des choses comme ça, c'est des aberrations. Mais la déforestation, aujourd'hui, c'est une hérésie, mais une hérésie qui, aujourd'hui, sert nos pays. Ouais, mais donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Il faut être vigilant sur la déforestation. C'est un système qui est enclenché au niveau mondial, même si nous, Européens, on se dit finalement, la forêt, en Europe, elle augmente de surface chaque année. Et par contre, elle est détruite d'une manière considérable partout ailleurs.
Comment s'organiser pour avoir du bois tout le temps ?
Voilà, c'est avoir de bons documents de gestion, c'est ce dont on vient de parler. Des documents de gestion qui préconisent justement de ne pas prélever toute la ressource. C'est ça qui est important. Et si on prend cette précaution-là, c'est simple, je l'ai évoqué rapidement, une forêt qui produit 5 mètres cubes par hectare et par an, il ne faut pas prendre plus de 5 mètres cubes par hectare et par an. Et là, vous avez une gestion durable.
Est-ce qu'on replante des arbres sur le territoire ?
Oui, il y a beaucoup de plans qui sont initiés à un niveau de notre territoire. Il y a un plan départemental, 500 000 arbres par exemple sur 10 ans. Donc la politique publique aujourd'hui incite beaucoup à planter des arbres, que ce soit de la forêt, l'arbre en ville, des arbres dans les collèges. Retirer un peu de goudron et mettre des arbres à la place, c'est bien sympathique parce qu'on les a retirés à un moment, on n'aurait peut-être pas dû tout retirer. Donc il y a les politiques publiques aujourd'hui qui incitent à planter des arbres. Braise bocage aussi, ce sont des programmes aussi qui invitent les particuliers et les collectivités à remettre des talus et si faire se peut, reboiser les talus. Donc on replante des arbres. Après, il n'est pas toujours nécessaire de replanter des arbres. Parfois, la forêt, vous savez, elle vient spontanément, toute seule. Vous laissez un champ en Bretagne évoluer, un champ de la presqu'île, n'importe lequel, vous le laissez évoluer naturellement pendant 15 ou 20 ans, vous allez voir petit à petit des arbres qui vont arriver. Vous allez voir des bouleaux d'abord, après des saules, puis petit à petit vous allez voir des chênes qui vont apparaître et la forêt naturellement va coloniser des champs qui sont délaissés. Donc les deux systèmes, c'est ça, la forêt gagne spontanément sur les terres agricoles et en plus on peut en planter et on en plante dans la presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime, oui, on en plante.
La production de bois consomme-t-elle de l'énergie ?
Oui, ce serait trop beau si ça n'en consommait pas. C'est vrai, quand vous allez en forêt, vous voyez les arbres qui sont coupés, il y a les tronçonneuses. Il y a des engins aujourd'hui de plus en plus lourds qui vont chercher les bois pour les amener dans les camions. Les camions, il faut qu'ils les transportent vers les scieries. Donc vous voyez, il y a une consommation effectivement d'énergie qui est importante pour produire du bois. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on appelle... C'est peut-être un peu compliqué pour des cinquièmes, mais je vois que vous êtes quand même assez affûté sur ces sujets-là. Et donc, c'est le retour énergétique. Ça veut dire qu'on va consommer, je vais schématiser, on va consommer à peu près 1 litre de pétrole pour produire en bois l'équivalent de 9 litres. Donc, vous voyez, c'est intéressant quand même de faire du bois, parce qu'avec 1 litre de pétrole, on produit l'équivalent, on produit l'équivalent de 9 litres en bois. Si je vous disais qu'il fallait 9 litres de pétrole pour faire l'équivalent en bois, ce serait d'un litre en bois, ce serait une aberration. Mais donc c'est important. Une éolienne, par exemple, pour que vous voyez bien l'analogie, une éolienne, il faut construire une éolienne. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, pour produire une éolienne qui va tourner pendant 20 ans, elle aura tourné pendant un an pour produire l'énergie qui a été nécessaire à sa construction. C'est peut-être plus simple à comprendre avec les éoliennes qu'avec le bois. Donc un panneau photovoltaïque qui va produire pendant 25 ans, il faudra 2 ou 3 ans de production pour compenser en fait la dépense énergétique qui a été nécessaire à sa construction.
Quels sont les inconvénients de la filière bois ? Quels sont les avantages de la filière bois ?
Les avantages, c'est comme on l'a dit, c'est une énergie renouvelable et c'est une énergie qui bien souvent est locale. On n'a pas besoin d'aller chercher du gaz ou du pétrole à l'autre bout du monde. On l'a ici, le bois, donc c'est local. Ça crée de l'emploi local, au niveau local. Les bûcherons, les débardeurs, tous les métiers de la forêt, ça les fait vivre aussi. Donc c'est important de rapprocher en fait l'emploi au niveau local, de maintenir l'emploi au niveau local. Donc ça, c'est un avantage. C'est renouvelable. Ça évite aussi beaucoup, quand on brûle du bois, on lâche du gaz carbonique dans l'atmosphère, mais c'est pas du gaz carbonique fossile. Et ce gaz carbonique, quelque part, après, il est réutilisé par les arbres encore pour faire... Parce que pour faire de l'arbre, il faut du gaz carbonique. Donc vous voyez, c'est un circuit, à la surface du globe, c'est un circuit qui se perpétue. Alors que le problème aujourd'hui, c'est qu'on va chercher du gaz carbonique sous le sous-sol et on le largue après dans l'atmosphère. Et là, c'est beaucoup moins vertueux. Donc l'inconvénient d'une filière bois énergique et dynamique, c'est que parfois on peut être tenté justement d'aller à l'excès et de couper trop d'arbres, trop de bois. On en a besoin, il y a un marché, le bois se vend cher aujourd'hui, donc on peut être tenté d'aller couper beaucoup plus de bois qu'il ne faudrait. Et c'est là que donc les documents de gestion sont extrêmement importants et qu'il y ait des gens pour vérifier que les plans de gestion soient correctement suivis.